Bonjour à tous, c'est la rentrée sur Transistor, début de la saison 4 et nouvelle émission politique. Adieu présidence, bienvenue dans Sans langue de bois et à mes côtés pour animer de concert l'émission, Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Cette année, nous vous proposons en effet un rendez-vous qui fait la part belle à la parole politique sous toutes ses formes. Une fois par mois, de jeunes militants de partis différents viendront débattre sur notre plateau, échanger et confronter des idées, le tout sans langue de bois.
Une fois par mois également, vous retrouverez des interviews en grand format d'hommes et femmes politiques avec un objectif et une condition. Au micro de Transistor, ils devront parler sans langue de bois.
Enfin, une fois toutes les deux semaines, la rédaction de Transistor vous proposera un magazine d'actualité politique dans lequel nous reviendrons avec vous sur l'actualité politique des dernières semaines en prenant le temps de s'arrêter loin des vaines polémiques et du flux tendu de l'information. Bref, en prenant du recul et de la distance.
Dans ce grand journal de la politique, nous accueillerons à chaque numéro deux éditorialistes aux opinions politiques différentes, laissant donc la place, après celle des militants et celle des politiciens, à une autre forme d'expression de la parole politique. Ils développeront avec la plus grande liberté de ton des idées et analyses personnelles. À vous de garder l'esprit critique et d'exercer votre opinion politique à l'écoute de discours parfois opposés et discordants.
Parmi nos éditorialistes, vous retrouverez tout au long de l'année Caroline Bouchier, Louis Dubost, Amos Reichmann ou encore Thibaut Sardier. Toutes les idées et toutes les opinions s'exprimeront donc en liberté et sans langue de bois. Pour ce premier numéro, c'est la première édition du magazine politique que nous vous proposons. Sommaire.
À la une de l'actualité politique cette semaine, la question du droit de vote des étrangers avec l'appel de 75 députés du Parti Socialiste pour son établissement rapide, alors que le débat est vif au sein de la majorité, que Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, l'a jugé non prioritaire. Dans l'actualité politique, nous évoquerons également la création de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, par Jean-Louis Borloo. Et si Nicolas Sarkozy pouvait de nouveau être président de la République en 2017, nous reviendrons sur deux sondages étonnants. Enfin, l'enquête de la semaine réalisée par Mathilde Ferrez sera consacrée à la politique culturelle en temps de crise. Sans oublier la chronique Vue d'Europe de Jérôme Bastic et deux éditoriaux, cette semaine proposés par Caroline Bouchier et Louis Dubost.
Quelle priorité pour le droit de vote des étrangers aux élections locales qui figurait en 50e place sur la liste des propositions de campagne de François Hollande ?
75 députés socialistes, toutes tendances et générations confondues, ont en effet lancé la semaine dernière dans le journal Le Monde un appel au président afin qu'il respecte sans tarder une promesse de campagne qui concerne 1,8 million d'étrangers extra-communautaires, c'est-à-dire non issus d'un pays membre de l'Union européenne et ayant résidé au moins 5 ans en France.
Le temps presse, écrivent ces élus. Le Parlement de gauche doit être une force de progrès, doit être dynamique sur ces sujets de société. Fin de citation. En ligne de mire, les élections municipales de 2014.
Mais contrairement aux 75 députés, l'idée de tenir une telle promesse ne semble guère réjouir Manuel Valls.
En effet, déjà aux universités du PS à La Rochelle, le ministre de l'Intérieur s'était fait applaudir en martelant que le droit de vote des étrangers n'était pas une priorité. Et il l'a répété la semaine dernière.
Manuel Valls a en effet estimé qu'il ne s'agissait pas, je cite, d'une revendication forte de la société, ni même d'un élément d'intégration, soulignant surtout le risque d'une jonction droite-extrême droite sur ce sujet. Et de continuer, ce débat risque de provoquer des fractures dans un moment de crise. On voit bien comment cela peut être utilisé.
Alors, qu'en est-il ? Le gouvernement va-t-il honorer ou évacuer cette promesse de campagne de François Hollande ?
Eh bien, le gouvernement va trancher, sans trancher, dans un joli consensus. Pour l'instant, le droit de vote des étrangers aux élections locales n'est pas une priorité. Ça, c'est pour contenter Manuel Valls. Mais comme il s'agit d'une promesse de campagne, elle doit être tenue, elle le sera, d'ici 2013, afin que, dès les municipales, elle soit appliquée. Ça, c'est pour rassurer les 75 députés.
Mais alors, pourquoi tant d'hésitation ?
Problème, Marie-Ève, c'est que cette réforme exige de modifier l'article 3 de la Constitution, qui prescrit que seuls sont électeurs, je cite de tête bien sûr, tous les nationaux français majeurs des deux sexes.
Et donc ?
Or, pour réformer la Constitution, il faut une majorité qualifiée des 3/5 des votants. Oui, c'est un peu technique, soit 555 parlementaires, sénateurs et députés confondus sur 925 au total. Mais le problème, c'est que la gauche ne peut compter que sur 521 voix assurées.
Donc, s'il n'y a pas un ralliement de voix centriste ou de droite, il serait impossible de faire voter une telle loi ?
Par la voie parlementaire, très difficile en effet, Marie-Ève. Néanmoins, le président, puisqu'il s'agit d'un sujet qui modifie la Constitution, peut demander un référendum. Mais là encore, la manœuvre est délicate, surtout que la question est loin de faire l'unanimité chez les Français. Alors que la crise s'aggrave et que la popularité de François Hollande chute, un tel référendum pourrait donc tourner au plébiscite et au vote sanction contre le président, sorte de retour de flamme de la présidentielle.
Aucune solution donc, si le gouvernement veut faire adopter cette réforme ?
Si, stratégiquement, le président pourrait demander un référendum à l'américaine, c'est-à-dire où plusieurs questions sont posées aux Français en même temps, dont certaines sur des sujets qui font consensus. Par exemple, demander à la fois « Êtes-vous pour le non-cumul des mandats ?» plus « Êtes-vous pour le strict respect de la parité dans la représentation des partis politiques français ?» deux questions pour lesquelles les avis sont plutôt très favorables et « Êtes-vous pour le droit de vote des étrangers aux élections locales ?» où là, les avis sont beaucoup plus partagés. Ainsi, si le non l'emportait pour la dernière question, il ne s'agirait que d'un demi-échec, puisque les deux autres verraient sans doute le oui l'emporter. Par ce moyen, le président aurait donc un bon moyen d'essayer de faire adopter sa promesse de campagne sans prendre trop de risques et laisser trop de plumes.
Et si on changeait d'échelle ? Et si on prenait du recul ? Et si on regardait la politique européenne et la politique avec des yeux d'Européens ?
Sur le sujet du droit de vote des étrangers, cette méthode nous permettrait de comprendre que le traité de Maastricht, voté en 1992, a, notamment, imposé la réciprocité en la matière entre les États membres de l'Union européenne, limitée aux élections locales, obligation qui existait par ailleurs déjà pour l'élection du Parlement européen. Après Maastricht donc, le débat sur la question du droit de vote des étrangers a pris une nouvelle tournure dans plusieurs pays européens, puisque certains résidents étrangers y avaient désormais le droit de vote, les Européens, et pas d'autres, les résidents étrangers originaires de pays non européens.
Le Luxembourg, puis la Belgique, et avant eux la Lituanie et la Slovénie, ont donc étendu ce droit, dans des modalités diverses, à tous les résidents étrangers, ce qui était déjà le cas en Suède, au Danemark, en Finlande et aux Pays-Bas.
Bref, vous le voyez, il est souvent bon de voir les choses avec les yeux et le recul d'un Européen. Parce que l'Union Européenne, ce n'est pas que des technocrates bruxellois incompréhensibles ou une crise de la zone euro. Parce que l'Union Européenne mérite mieux que l'image lointaine et souvent négative qu'en donnent la plupart des médias traditionnels. Jérôme Bastic vous présentera régulièrement sa chronique « Vue d'Europe ». Bonjour Jérôme.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Cette semaine dans Vue d'Europe, tu voulais souhaiter un bon anniversaire à Maastricht, n'est-ce pas Jérôme ?
Tout à fait Thomas. Pour ouvrir ce premier numéro de Vue d'Europe, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à l'Union Européenne, qui a bien besoin d'un peu de confiance dans les temps mouvementés qu'elle traverse. Cette semaine, on célèbre les 20 ans du référendum qui, en France, avait permis une avancée décisive dans la construction européenne. L'adoption du traité de Maastricht. S'il est possible d'en discuter les résultats, il serait absurde de renier l'héritage de ce grand texte et les fruits qu'il a portés depuis tout juste 20 ans. Plus ou moins modifié depuis par les traités successifs d'Amsterdam, de Nice puis de Lisbonne, les bases qu'il a jetées subsistent toujours aujourd'hui, à commencer par la nécessaire rénovation de nos institutions européennes, le renforcement de la coopération entre États membres, la plus grande mise en commun de la politique étrangère et de sécurité, et surtout l'union économique et monétaire qui allait conduire à la création de l'euro. Parallèlement à l'apparition de cette monnaie commune, différents procédés de solidarité économique étaient prévus par ce traité, dont nous entendons beaucoup parler aujourd'hui. La limitation des taux d'inflation, accompagnée par la politique de l'euro fort menée par la Banque Centrale Européenne de Jean-Claude Trichet. Celle de l'endettement public des États membres à moins de 60% des produits intérieurs bruts nationaux. Et celle, encore plus fameuse, des déficits budgétaires nationaux à moins de 3% de ces mêmes PIB. Las, on connaît la suite, le chacun pour soi et l'explosion des dettes publiques. Qui a respecté ces limitations ? Qui a renoncé à vivre au-dessus de ses moyens? Le constat est cruel, particulièrement pour nous autres franco-franchouillards qui pensions pouvoir vivre à crédit, sans problème, ad vitam aeternam. Cruel aussi, le constat de l'évolution de la confiance des Français dans l'Europe de Maastricht. Pour les plus anciens, on se souvient de la division soulevée en 1992 par le référendum. On se souvient de la passion des Français pour cet événement essentiel. On se souvient de ces débats enflammés, d'un Jean-Pierre Chevènement condamnant Maastricht, pour rimer avec coup de trique, face à un François Bayrou qui avait des étoiles plein les yeux, d'un Philippe Séguin exceptionnellement timide face à un François Mitterrand déjà très affaibli par la maladie. Et on se souvient, bien sûr, du résultat. Une courte victoire du oui à 51 contre 49%, avec 7 électeurs sur 10 qui se sont déplacés. Les Français avaient vraiment pris la question en main, et ils avaient tranché, de justesse. Juste après la chute du mur et l'explosion de l'URSS, tous les rêves étaient permis. Mais on aurait pu imaginer, espérer, que cette frilosité initiale s'estomperait peu à peu avec le temps et l'expérience de l'Europe. Que nenni ! La crise est passée par là, érodant tous azimuts ce rêve européen et excitant le repli sur soi national. Aujourd'hui en France, 20 ans après Maastricht, nous n'avons pas besoin des sondages pour savoir qu'un tel référendum serait perdu. 64% de non contre 36 seulement de oui, selon l'IFOP. C'est peu de dire, à l'instar du Figaro, que le clivage révélé par le référendum de 2005 s'est durci. Les politiques ont joué sur nos peurs, c'était Maastricht ou la guerre, nous avons eu Maastricht et la ruine, écrit un internaute. Mais comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on bien pu en arriver là? Pourquoi ce rejet grandissant à l'égard du grand projet fédéral européen, le projet politique le plus audacieux qui ait été porté en cette fin de XXe siècle, celui d'une union politique, économique et monétaire entre différentes nations? Pourquoi tant de gens qui ont voté oui à l'époque pensent-ils aujourd'hui avoir voté non à la France et saborder leur pays, notre pays? À l'heure où le beau rêve, ou pour d'autres, le cauchemar d'un État européen unique semble s'éloigner de la plupart des mentalités, et où il a en même temps le plus de chances et de raisons de s'échafauder, les explications ne manquent pas. Et les prochains numéros de Vue d'Europe seront pour nous autant d'occasions d'y revenir. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour la suite, et en attendant, bon anniversaire à Maastricht.
Merci Jérôme.
Nous vous le disions tout à l'heure, en présentation, nous accueillerons à chaque numéro deux éditorialistes aux sensibilités différentes, voire radicalement opposées, pour que toutes les opinions s'expriment sans langue de bois.
On accueille donc Caroline Bouchier pour son éditorial qui évoque, elle aussi, l'Union européenne, mais qui s'intéresse, quant à elle, plus aux traités européens. Bonjour Caroline.
Bonjour Thomas et merci de me laisser le micro pour ces quelques minutes. Quelques minutes où j'aimerais revenir avec vous sur les 20 ans du traité de Maastricht et peut-être 20 ans déjà, 20 ans qui ont passé, 20 ans qui nous séparent de notre tendre enfance, à nous masterants et doctorants, mais 20 ans qui séparent nombre d'électeurs de ce fameux référendum remporté d'un cheveu par le président d'alors, François Mitterrand. François Mitterrand, le Parti Socialiste, les traités européens. Toute une histoire. Et cette rentrée 2012, un autre François, un autre socialiste, un autre traité. Mais 20 ans après, il n'est plus question de référendum. Et pourtant, comme beaucoup d'entre vous, j'ai certainement espéré ce jour de mai 2012 où j'ai glissé un bulletin pour ce François, ce socialiste, qu'il renégocierait justement ce traité. Il avait même dit en 2008, il me semble, alors que le Congrès se réunissait à Versailles, qu'à la place du gouvernement d'alors, un gouvernement UMP, il aurait assumé, lui, la responsabilité d'un référendum pour un traité européen, tel que le traité dont on parlait d'alors, le traité de Lisbonne. Qui avait-il dedans, me demanderez-vous ? Eh bien, mes amis, dans ce traité de Lisbonne, il y avait les braises encore chaudes d'un autre texte européen, celui de 2005, le traité constitutionnel européen, TCE, oui, c'est ça, le TCE, celui pour lequel, cette fois-ci, beaucoup d'entre nous avaient pu s'exprimer, puisqu'il y avait eu un référendum, référendum qui avait conclu au rejet de ce TCE. Avec François Mitterrand, il y avait eu la promesse d'une Europe socialiste. Et puis la crise, ma bonne dame, la crise, la mère de toutes les bassesses politiques, celle qui excuse toutes les fuites, celle qui pardonne tous les mensonges, et surtout, celle qui absout l'inconséquent, la crise avait coupé les élans de la France socialiste, fini les rêves de grande Europe sociale, fini le rêve d'un espace social européen que Mitterrand avait évoqué en 1981. On allait faire le marché unique, faire ce que les pères fondateurs avaient marqué dans le marbre du traité de Rome de 1957. Maastricht instituait l'Union européenne. Rien à voir donc avec le TSCG de cette année. Et puis surtout, cette année, il manque le référendum. Cet exercice politique au cours duquel le gouvernant reconnaît ne pas être sûr de représenter assurément le gouverné. Cette grandeur démocratique prévue par notre Constitution qui voudrait que quand on touche au texte fondateur, on demande justement aux constituants. Bien sûr, le TSCG n'est pas anticonstitutionnel. Comment pourrait-il l'être, puisque c'est notre Cour constitutionnelle d'aujourd'hui qui a le pouvoir de le dire. Mais surtout, loin de moi l'idée que le Congrès des deux chambres n'est pas apte à ratifier un tel texte comme il s'apprête à le faire début octobre. Mes idées penchent toujours vers ce que certains appellent l'extrême-gauche, faute de chercher à comprendre la complexité politique du paysage français. Et dans ce genre de répertoire politique, l'antiparlementarisme a toujours été l'ennemi. En tout cas, c'est bel et bien le mien. Cependant, je ne peux m'empêcher de penser que l'honnêteté politique d'aujourd'hui voudrait que quand un texte a été porté par un bord, puis remanié par l'autre, en moins d'une année, quand un texte s'apprête à engager la nation entière dans le premier de ses fondements, en tant que société unie et démocratique, à savoir ce qui est pour moi le droit inaliénable de décider de la direction de la communauté ainsi constituée, l'honnêteté politique, en somme, voudrait que l'on convoque chacun des citoyens à l'exercice de son esprit critique et de son droit de vote. Je viens d'un bord politique que l'on a souvent taxé de populisme, mais je dois bien avouer que je pense que ce bord politique a la rigueur de reconnaître que le pouvoir conféré par une élection ne peut pas tout, et qu'il faut, comme sur le nucléaire, autre exemple qui fera sûrement l'objet de débats cette année, en tout cas je l'espère. Donc, comme sur le nucléaire, je pense qu'il faut parfois en appeler à l'Assemblée des citoyens sans craindre le débat. En Europe comme en France, on a tout traité depuis 1992. On a signé beaucoup, on a parlé sans cesse, les nouveaux engagements en matière de sécurité, de justice, des nouveaux projets. Aujourd'hui, on parle d'une union bancaire. À nouveau, M. Barroso a évoqué la perspective d'un traité qui nous engagerait cette fois-ci définitivement sur une voie fédérale. On a traité partout, à Lisbonne, à Nice, à Amsterdam, depuis 1992. Mais on n'a pas traité de l'essentiel, la place que devait occuper l'Européen, la place que pourrait occuper le citoyen.
Eh bien, merci Caroline. On passe maintenant à l'enquête de la semaine, consacrée à l'orientation actuelle donnée à la politique culturelle par la ministre Aurélie Filippetti, une enquête réalisée par Mathilde Ferrez. Rentrée, crise et la culture dans tout cela. Austériculture, une enquête réalisée par Mathilde Ferrez.
Comme les huîtres que l'on s'accorde exceptionnellement lors des fêtes de fin d'année, la culture devient un luxe en période de crise.
Lors de son intervention sur TF1 le 9 septembre dernier, le président de la République, François Hollande, s'est en effet engagé à trouver 30 milliards d'euros supplémentaires pour boucler le budget de 2013. Depuis, la ministre de la Culture, Aurélie Filippiti, multiplie les annonces restrictives. Son ministère, ne faisant pas partie des ministères prioritaires que sont ceux de l'éducation, de la justice et de l'intérieur, elle se voit contrainte de limiter les dépenses.
Au risque de mettre à mal l'exception française.
Tout à fait, Marie-Ève. Même si Aurélie Filippiti n'a pas confirmé la baisse de 3% du budget de la culture en 2013. Dans un entretien au Monde, elle a déclaré qu'il fallait attendre la fin des arbitrages. La ministre de la Culture a malgré tout admis que des efforts s'avéreront nécessaires. Elle a affirmé qu'on traversait une crise économique d'une gravité inouïe et, je cite, « que tout le monde devait être mis à contribution ».
Des déclarations de restrictions budgétaires qui sont une première dans la politique culturelle française de ces 10 dernières années.
C'est vrai. La France avait jusqu'alors réussi à tirer son épingle du jeu en matière de politique culturelle, dans le panorama européen. Alors que la plupart de ses voisins annonçaient l'avortement de projets ou l'amputation de ses budgets, la mère des arts, des armes et des lois tenait bon. Mais les efforts supplémentaires demandés par le président de la République ne permettent plus d'épargner ce qu'on a coutume d'appeler l'exception française. Pour ce faire, la ministre de la Culture cherche à rationaliser au mieux les dépenses, même si cela doit passer par l'abandon de projets culturels.
C'est ainsi que certains projets de son prédécesseur, Frédéric Mitterrand, ont été abandonnés. L'arbitrage aurait été fait en fonction du coût des chantiers. C'est le cas notamment pour la Maison de l'Histoire de France, annoncée en 2007 par Nicolas Sarkozy. Autre exemple, celui de la salle supplémentaire de la Comédie-Française à la Bastille.
Toutefois, ces renoncements ne sont pas qu'affaires d'argent.
Oui, la ministre cherche à donner une portée éthique et sociale à ses décisions. Elle pointe entre autres le risque d'une utilisation politique du passé pour justifier l'abandon de la Maison de l'Histoire de France, un danger déjà souligné par de nombreux historiens. Quant à l'abandon de la nouvelle salle à la Comédie-Française, c'est dans l'optique d'ouvrir cette grande scène au-delà du seul cercle parisien. La ministre évoque en effet l'idée que la troupe parte sur les routes de l'Hexagone, puisqu'elle la considère comme celle de tous les Français.
La locataire de la rue de Valois ne rompt pas seulement avec des projets ponctuels que tu viens d'évoquer, Marie-Ève. Elle marque également son opposition avec la politique culturelle plus globale du mandat précédent.
En déplacement à Metz le 14 septembre, elle a par exemple critiqué avec vigueur l'autorité administrative chargée de lutter contre le téléchargement illégal Adopi. En effet, selon elle, il y aurait un fossé entre les moyens financiers que l'on consacre à cette lutte et les résultats obtenus. Une des raisons de cet échec, selon elle, une offre légale trop variée de la part des institutions musicales.
De nouveau, on voit que la ministre ne veut pas apparaître que comme une comptable. En critiquant l'offre, elle marque ainsi sa volonté de protéger la filière musicale et d'encourager la création.
Mais la justification éthique des restrictions budgétaires ne convainc pas tous les acteurs culturels. Des tensions ont surgi cette semaine dans plusieurs secteurs.
Divers acteurs du monde musical ont tout d'abord manifesté leur désaccord avec la ministre. Par exemple, la société chargée de recueillir les droits des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la fameuse SACEM, rejette l'accusation d'une offre limitée.
Mais la tension ne se cristallise pas seulement autour des critiques formulées par Aurélie Filippetti.
Non, c'est vrai. Une partie du secteur musical se sent délaissée par le ministère de la Culture depuis l'annonce la semaine dernière de l'abandon du Centre National de la Musique, le CNM. Cet établissement public, s'il avait été créé, aurait eu comme objectif, entre autres, d'aider la musique française globalement.
Mais à ce sujet, la nouvelle ministre hérite d'un dossier épineux.
C'est le moins qu'on puisse dire, puisque le projet du CNM, initié par la droite fin novembre 2011, ne présentait pas un financement clair. En effet, il était prévu que les excédents du CNC, l'alter ego cinématographique du CNM, financent une partie de cette nouvelle maison musicale. Seulement, cette ambition est décriée par le CNC lui-même qui voit un risque pour sa propre institution. La CGT, principal syndicat du spectacle vivant en France, partage cette même inquiétude.
On voit donc tous les remous que provoquent les restrictions budgétaires. Face à cela, la ministre doit trouver d'autres solutions que les seules économies. La création de taxes apparaît alors comme un moyen potentiel de gonfler le budget.
C'est pourquoi la ministre de la Culture, qui est aussi celle de la communication, remet à l'ordre du jour le projet de la taxe Google afin de faire participer les moteurs de recherche au financement de l'information en France. L'idée avait déjà été avancée sous l'ère Sarkozy, puis abandonnée. Mais la semaine dernière, le syndicat de la presse quotidienne nationale a relancé le projet auprès de la nouvelle ministre. L'idée serait de faire payer les liens hypertextes suggérés par les moteurs de recherche au bénéfice des groupes de presse.
Une sorte de droit d'auteur journalistique, en quelque sorte.
Ouais, exactement.
Toutefois, le projet présente des failles.
En effet, il semble difficile de déterminer à qui revient l'argent dégagé. Il convient de décider s'il est attribué de manière équitable à tous les groupes de presse ou seulement à ceux dont les liens sont les plus exposés.
Or, la seconde solution comporte quelques limites.
Oui, parce que favoriser les sites les plus suggérés, c'est en fait valoriser les groupes de presse les plus spontanément lus par les auditeurs. Répartir l'argent de manière équitable serait ainsi l'occasion d'encourager des rédactions plus modestes et donc de privilégier la pluralité des voix, élément essentiel dans une démocratie.
Ainsi, la taxe Google, bien qu'elle ait évidemment pour but premier de dégager de l'argent, s'inscrit dans une perspective plus globale, celle de protéger la création en rendant l'accès aux œuvres par Internet plus sécurisé. C'est une manière indirecte de reconnaître une place à la culture en faisant payer aux grands groupes financiers du net la création qu'ils diffusent sans aucune entrave.
Au terme de l'enquête, réalisée par Mathilde Ferrez, on l'aura compris, la priorité du ministère de la Culture est à l'économie.
C'est sans grande surprise, puisque le gouvernement avait annoncé clairement dès le début qu'il ne faisait pas partie des ministères prioritaires.
On peut reconnaître cependant que les choix de la ministre Aurélie Filippetti ne sont pas faits qu'en fonction du seul critère du chiffre.
Oui, la taxe Google en est un exemple, en voulant mettre au pas les grands pour financer les petits. Cette dynamique doit s'intensifier. Tout d'abord, parce que les gens, malgré les idées reçues, ne délaissent pas les cinémas, ni les théâtres et ni les musées en période de crise. Les chiffres de 2011 le montrent clairement. Lorsque l'argent n'est pas là pour faire, on aime à penser.
En outre, le secteur de la culture, vu trop souvent comme le secteur de l'inutile, a pourtant une vraie portée économique en permettant la création d'emplois.
Mais plus profondément, la culture en temps de crise ne peut pas devenir cette perle de culture que l'on cherche désespérément en ouvrant les huîtres. En effet, la crise a contribué à renforcer les crispations identitaires et le repli sur soi, et à redynamiser des discours nationalistes. Contre ces tendances, la culture doit s'imposer, parce qu'elle ouvre les perspectives de la création, de l'intelligence, et parce qu'elle bouleverse la norme.
Austériculture, une enquête préparée et réalisée par Mathilde Ferrez.
Sans langue de bois, c'est le choix d'entendre s'exprimer toutes les opinions politiques. Place donc maintenant au deuxième éditorial de l'émission et à la plume de Louis Dubost, avec qui nous restons dans le monde de la culture.
Bonjour Louis.
Bonjour Thomas.
Nous parlions à l'instant de politique culturelle. Tu vas nous parler, en quelque sorte, de politique éditoriale, puisque, si je ne me trompe pas, tu entends revenir sur l'affaire Richard Millet, qui continue d'agiter le microcosme germano-pratin après son renvoi du comité de lecture de Gallimard.
C'est cela. Sans doute aurait-il paru incongru que l'École normale supérieure échappe à la très médiatique et littéraire polémique ouverte il y a quelques semaines par la parution aux éditions Pierre-Guillaume de Roux d'un éloge littéraire d'Anders Breivik par Richard Millet, auteur phare de la maison Gallimard, dont il est également un prolifique éditeur. Aussi tenons-nous à en dire un mot, un peu tardif, estimeront certains, car tout semble avoir été déjà dit de ce petit essai très mineur quand, en définitive, pas grand monde n'a lu. Débattre du fond dans les 3 minutes qui me sont imparties relèverait d'une désinvolture certaine. Je me refuse donc à expédier le procès d'un auteur qui construit sa pensée pierre après pierre, livre après livre depuis plus de 30 ans, qui jouissait jusqu'alors de l'estime de ses pairs, de l'enthousiasme de la critique, et accroît à chaque nouveau roman le cercle de ses lecteurs attentifs. J'ai donc décidé de ne pas hurler avec les loups, de ne pas éreinter l'auteur de Ma vie parmi les ombres, pour cette 15aine de pages que d'aucuns jugeront, en leur âme et conscience, opportunes ou malheureuses. Si je ne m'appesantis pas sur le fond, il m'est en revanche possible de discuter de la forme, et du triste statut d'exception dont Richard Millet semble bénéficier sur la scène médiatique. Qui s'est par exemple offusqué du récent papier du Monde, fort bienveillant, à l'égard du terroriste en cavale, écrivain à ses heures perdues, César et Battisti? Et aurait-on dû hurler au scandale lorsque la Palme d'Or fut remise au film de Gus Van Sant, Elephants, prenant le point de vue de 2 jeunes Américains massacrant leurs congénères à l'arme de guerre? On estimera peut-être que nos censeurs ont l'indignation, le mot est à la mode, bien sélective. Mais passons. Le plus grave réside dans la cabale honteuse menée tambour battant par ceux-là même qui auraient dû défendre Millet contre la meute. Que chacun puisse à sa guise, et nous en sommes. Prendre ses distances avec le conservatisme à rien crispé de Richard Millet, rien n'est plus naturel. Mais la pétition hargneuse d'Annie Ernaux, appelant à brûler le pamphlet fasciste de Millet, comme l'article cafard de Bernard-Henri Lévy, un phalangiste à la NRF, s'égare bien loin de l'humanisme bienveillant qui, à les en croire, motive leur libelle. D'abord, on se paie de mots. Mort en Europe depuis plus de 60 ans, le fascisme est un ennemi bien commode aux paresseux. Il ne mord pas ni ne proteste jamais des crimes qu'on lui impute et des partisans fantasmés qu'on lui prête. Ensuite, dans cette maison qui vient pourtant d'offrir à Drieu La Rochelle les heures de la Pléiade, toute déviance idéologique serait-elle à proscrire ? À quel cahier des charges tacite faut-il obéir ? À quelle coterie faut-il donc appartenir pour profiter librement des mannes de la rentrée littéraire ? Enfin, c'est la confusion des genres qui nous dérange. Comment se fait-il que Richard Millet, éditeur, ait été démissionné du comité de lecture de Gallimard pour un ouvrage que Richard Millet, auteur, a signé dans une autre maison d'édition ? On en veut à l'auteur et on pénalise l'éditeur. Je crois qu'en termes de droit du travail, c'est là un beau cas de licenciement abusif. Derrière le tollé moralisateur, entretenu à dessein, se jouait donc un sordide règlement de compte. Et l'occasion était trop belle. Une certaine presse, que le goût du sang a toujours émoustillée, ne pouvait manquer après que ses maîtres eurent mené la première charge de se ruer à la curée. Le Nouvel Observateur, encore récemment, de dénoncer la nébuleuse brune, où, pêle-mêle, Finkielkraut et Soral, Elisabeth Lévy et Alain de Benoist, se trouvent confondus et dénoncés. Mais de quelle fausse profonde ces journaux hypocrites, rangés depuis toujours en ordre de bataille derrière Charlie Hebdo, ont-ils déterré leur attirail de chevaliers blancs, dévoués corps et âme à la liberté d'expression, eux que la nostalgie de l'épuration n'a pourtant jamais quittés ? Au soir donc de cette affaire, bientôt emportée par l'actualité, affaire qui aura vu un écrivain de talent broyé par la bêtise des uns et la méchanceté des autres, un goût de cendre nous reste dans la bouche. Car c'est une victoire à la Pyrrhus que vient de remporter un camp où chacun s'est déconsidéré. Avouons-le, Richard Millet aurait certainement mieux fait de retenir sa plume, mais Gallimard s'est montré bien pleutre. Les écrivains au style pauvre et à l'imagination étroite, les philosophes de troisième zone rendus méchants à force d'être médiocres, et la masse des envieux, dans l'ombre, se sont déconsidérés. Quant à la servilité des journalistes, j'avais préparé une diatribe, mais je me refuse même à m'apesantir. Puisqu'il m'est permis, au moins une fois, de citer François Mitterrand, à l'oraison funèbre de Pierre Bérégovoy, lui aussi foudroyé par l'opinion imbécile, souvenons-nous de l'amère leçon qu'il adressait au pays et qui ne semble guère avoir été retenu. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme.
Merci Louis. Il ne partage certainement ni les opinions de Caroline Bouchier, ni celles différentes, voire radicalement opposées de Louis Dubost. Il ne les recrutera probablement pas dans le nouveau parti politique qu'il vient de fonder. Et cela tombe assez bien car nous avons besoin d'eux pour l'émission, non mais. Lui, c'est Jean-Louis Borloo qui vient de créer l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants, nouvel avatar des partis centristes en France.
L'ancien ministre de l'écologie de Nicolas Sarkozy a en effet jeté mardi 18 septembre, à l'occasion des journées parlementaires centristes, les fondations de son nouveau parti, qui entend occuper le centre de l'échiquier politique.
Divisés depuis l'éclatement de l'UDF, les centristes, hors modem, et qui profitent de la mise à mal, pour ne pas dire mise à mort, du mouvement de François Bayrou, et les radicaux, ont décidé de franchir le pas et de s'unir avec des indépendants et des divers droites, pour mieux peser dans la vie politique française face aux deux blocs de gauche et de droite.
Union ou réunion donc, et cela autour de priorités et de valeurs, parmi lesquelles figure, je cite, « la refonte d'une Europe plus intégrée, un allègement massif des charges sociales des entreprises, une décentralisation maîtrisée, une réelle maîtrise des comptes publics, une révolution éducative favorisant l'apprentissage et l'alternance, ou encore la défense d'une écologie responsable, porteuse d'emplois durables ».
En attendant le baptême qui doit avoir lieu à la salle de la Mutualité le 21 octobre, que ceux qui sont intéressés notent dans leur tablette, plus de 200 personnalités et élus ont signé le pacte fondateur. Il s'agit d'un jour important, pour ne pas dire historique, a lancé Jean-Louis Borloo face à un parterre d'élus en évoquant notamment la refondation d'une famille.
après l'échec de l'ARES, Confédération des centres avortés avant la présidentielle, dont Jean-Louis Borloo était déjà l'instigateur, les initiateurs du nouveau mouvement espèrent cette fois réussir leur greffe dans le paysage politique français. En tout cas, avant les municipales et les européennes de 2014, leurs premiers objectifs électoraux.
Mais est-ce que ce parti a une chance, Marie-Ève, d'aboutir ? Ou l'UDI risque-t-elle de finir au cimetière du centrisme perdu ?
Ah, cela, seul l'avenir le dira, bien entendu. Mais on peut rappeler que depuis la fondation de la Ve République, cette idée de l'union du centre est loin d'être récente ou originale, puisque depuis le centre républicain fondé en 1958 par André Maurice, la famille centriste, comme l'appelle Jean-Louis Borloo, a connu 22 autres partis politiques plus ou moins restés dans les mémoires.
Évidemment, tout le monde garde en mémoire l'UDF, fondée par Valéry Giscard d'Estaing en 1978. Mais depuis son éclatement au milieu des années 1990, c'est comme si le centre peinait à trouver un successeur à ce parti devenu LA référence, et dont on oublie pourtant qu'il n'a pas fait gagner Valéry Giscard d'Estaing en 1974, lui qui se présentait comme le candidat des Républicains indépendants.
Giscard, candidat victorieux des Républicains indépendants, Borloo, fondateur presque 40 ans plus tard de l'Union des démocrates et indépendants, comme une parenté qui voudrait effacer l'hémorragie centriste, non encore stoppée depuis la fin de l'UDF et renforcée depuis 2007. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, il existait encore pas moins de 7 autres partis d'obédience centriste que l'UDI entend presque tous absorber.
D'abord les vieux de la vieille, ceux dont on a même oublié soit qu'ils existaient encore, soit qu'ils étaient centristes. D'abord le Parti radical, ou Parti radical valoisien, fondé en 1972 par Jean-Jacques et avant Schreiber. Ensuite, son pendant de centre-gauche, le Parti radical de gauche, fondé en 1972, la même année donc, par Maurice Faure et René Billière. Aujourd'hui dirigé par un certain Jean-Michel Bailey, candidat malheureux, vous en souvenez, des primaires socialistes, et dont est issue la garde des Sceaux actuelle, Christiane Taubira.
Pour le PRG qui fait partie de la majorité présidentielle, pas question d'adhérer à l'UDI.
Évidemment, on voit donc que malgré la volonté d'union du centre affichée par Jean-Louis Borloo, le mouvement radical français reste toujours fractionné entre centre-droit et centre-gauche.
La division centriste que l'UDI prétend corriger s'était récemment accentuée. L'emblématique Modem, fondée en 2007 par François Bayrou, avait un temps porté les mêmes espoirs de rénovation centriste que l'UDI, mais avait dû vite compter avec la concurrence d'autres mouvements, comme le Nouveau Centre, fondé en 2007 par Hervé Morin et André Santini, celui des progressistes, fondé la même année par Éric Besson, ou encore la Gauche moderne de Jean-Marie Bockel, ou plus récemment, le Parti libéral-démocrate, fondé en 2008 par Aurélien Véron.
Si les récents petits partis centristes que tu as évoqués, Marie-Ève, et auxquels il faudrait encore ajouter les micro-partis ou mouvements que sont l'Alliance centriste de Jean Arthuis, Force européenne démocrate de François Sauvadet ou Territoire en mouvement de Jean-Christophe Fromentin n'en jetaient plus, font partie de l'aventure et du pari de l'UDI, tout comme le Parti radical valoisien, il n'en est pas de même pour l'instant du Modem. Et se dessine à l'horizon une guerre fratricide, plutôt en défaveur du parti de François Bayrou après les déconvenues des précédentes élections. Concurrence, en tous les cas, forcément néfaste pour la famille centriste dont on a peine à voir la véritable union, dont se réjouit pourtant Jean-Louis Borloo.
L'UDI, alors, avenir du centrisme ou nouvel avatar ? Affaire à suivre. À présent, dernière question du jour. Top ! Il a été un des artisans de la fragmentation du centre, d'abord à la tête de l'UMP, qui originellement avait absorbé l'UDF, ou au moins une partie du mouvement. Ensuite, lors de son quinquennat, en accueillant dans sa majorité et son gouvernement le Nouveau Centre d'Hervé Morin, et donc en accentuant la rivalité entre centristes, entre Nouveau Centre et Modem, il s'agit de...
Nicolas Sarkozy ?
Oui, Thomas, c'est juste.
Au plus bas dans les sondages d'opinion en mai dernier, battu à l'élection présidentielle, comme chacun sait, on pensait qu'il ne lui restait plus qu'une retraite, certes confortable, agrémentée de réunions au Conseil constitutionnel et de possibles tournées de conférences mondiales à la Clinton ou à la Blair. Et pourtant, et si l'ancien président français pouvait se relancer en politique pour 2017 ou même avant ?
L'affaire est bien connue. En politique, les absents ont toujours raison. C'est ce que confirme une enquête Harris Interactive pour LCP, selon laquelle 44% des Français sondés estiment que Nicolas Sarkozy aurait été meilleur en cette rentrée que ne l'a été François Hollande.
Une enquête d'opinion qui fait écho à un autre sondage réalisé quant à lui par LH2 pour le Nouvel Observateur, qui montre que Nicolas Sarkozy reste l'homme le plus capable de faire gagner la droite en 2017, selon 40% des sympathisants de droite, devant François Fillon 32% et Jean-François Copé 18%. Sondage qui se place dans le contexte du duel prévu entre François Fillon et Jean-François Copé au sein des primaires organisées pour la présidence de l'UMP. Duel après les défections de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Xavier Bertrand.
Dans le détail, on se rend compte néanmoins que l'ensemble des 969 Français sondés, et non sur les seuls sympathisants de droite, à la question « Parmi les hommes politiques suivants, lequel vous semble le plus capable de faire gagner la droite lors de la prochaine élection présidentielle en 2017 ?» a répondu à 37% François Fillon, à 27% Nicolas Sarkozy, à 15% Jean-François Copé et à 11% aucun des trois. Un sondage à nuancer donc.
Bref, en France, les hommes politiques ont la peau dure et ne sont jamais morts. Alors en 2017, pourquoi pas un duel Sarkozy-DSK ?
Notre émission touche à présent à sa fin. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de l'émission. Merci à Antoine et à tous ceux qui ont aidé à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire, donc. Merci également à Mathilde pour son aide dans la préparation de l'émission et la rédaction de l'enquête de la semaine.
Également sur les ondes de Transistor cette semaine, ne manquez pas le numéro des Irradiés, spécial RCF, piloté par ma complice Marie-Ève, t'as vu, je te fais de la pub, ainsi que le premier numéro de la saison pour Le Monde ne suffit pas. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de 100 langues de bois et d'ici là, on ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.